Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Sud, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la petite foire paysanne de Tournai, qui était cette année dans sa 13e édition. Les conférences qui ont lieu pendant le week-end ont déjà été mises en ligne. Nous proposons maintenant une sélection d'interviews réalisées pendant le week-end. Bonne écoute. Pour travailler dans une ferme, on peut acheter un gros tracteur qui fait 3, 4 ou 500 chevaux. Mais aux surprises, il est aussi possible de travailler la terre avec un, voire peut-être deux chevaux. Il y a une association qui s'appelle Meneur, au pluriel, donc qui s'occupe de réintroduire, parce que ça s'est quand même un petit peu perdu, le travail avec des chevaux. Alors voilà, je vous propose une interview qui va un peu nous expliquer.
Voilà, on est parti. J'ai un monsieur qui a un sweatshirt avec un capuchon, il a écrit Meneur. Alors c'est quelqu'un qui mène les chevaux,
C'est ça, c'est le métier de quelqu'un qui travaille avec le cheval dans différents domaines, que ce soit le travail en forêt, donc le débardage, le travail en agricole, le maraîchage, la vigne, le travail de la vigne, ou bien les activités plus pédagogiques, éducatives, touristiques, attelage, etc. Voilà, c'est trois gros domaines.
D'accord, on va aller un peu parler, il y aura peut-être un peu moins de vent. Oui, alors il y a aussi, ils sont actifs dans le voyage, ils ont un tapis volant notamment.
Oui, alors là, voilà, petit voyage pour les enfants, alors on pourrait appeler ça un tapis grattant plutôt. Mais oui, grand tapis derrière lequel les enfants se mettent, se posent, et puis le cheval les emmène pour un petit voyage dans le verger là, c'était.
Ouais. Oui, j'ai vu les premières expérimentations avec les poneys des fjords, là.
C'est ça. Ou
les chevaux des fjords.
Ouais.
Et c'est très drôle parce que peut-être qu'ils avaient mis trop d'enfants, mais au début, ils n'arrivaient pas à lancer le truc. Après deux, trois fois, ils avaient compris la force qu'il fallait mettre et les enfants étaient vraiment ravis.
C'est ça.
Bon, alors... C'est chouette de les voir, des étoiles dans les yeux, comme ça, de partir sur un tapis volant.
C'est ça. C'est un peu le coup de collier. Alors, bon, le coup de collier, quand on a cinq enfants sur un tapis, ça va. Mais c'est le même principe quand un cheval doit faire démarrer un arbre, ou peut-être un arbre assez lourd, ou bien parfois il y a une branche qui a été mal coupée et qu'il faut donner ce coup de collier. D'ailleurs, c'est une expression dans le langage.
Oui, en effet.
Où le cheval doit démarrer la charge.
Okay.
Ce qui est très différent. Il y a d'ailleurs des chevaux qui sont très à l'aise avec ça et d'autres pas du tout. Quand on va être dans ce coup de collier à donner, il y a des chevaux qui vont avoir du mal à se mettre en route, alors que d'autres, ça va être leur force.
Ah oui,
une fois que le bois est parti, ben là, voilà, c'est...
C'est un peu comme les coureurs à vélo, les sprinteurs, ceux qui font
un
la montagne, etc.
Peut-être bien que ça ressemble à ça. Ouais.
Alors, on parlait de collier, là, justement. Vous pourriez expliquer un peu le principe du collier? Parce que ça sert à tirer les charges, etc. Mais c'est aussi un moyen de communiquer avec le cheval.
C'est ça. Donc la charge, elle est répartie sur l'ensemble du cuir qui est ici, qui est installé vraiment sur cette partie du cheval qui est l'épaule.
L'avant de l'épaule,
Et le poitrail, donc c'est vraiment la base de la traction. Donc ça, c'est tout l'appareil de traction. Et puis ici, on a les traits, on a des avant-traits, on a des traits.
Oui, donc les traits, c'est une barre métallique qui relie le collier avec une espèce de ceinture.
C'est ça, elle est arrondie pour épouser l'épaule du cheval et pas venir le blesser.
Alors effectivement, si on soulève le chose en question, ben oui, il y a absolument, les poils ne sont même pas usés. Donc,
pas du tout, regardez. En fait, ce qui est super important et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment fondamental, quand on est meneur, on est souvent au cul du cheval, on voit son derrière, mais ça vaut la peine de demander à quelqu'un de filmer le cheval ou bien que quelqu'un d'autre mène le cheval et de regarder, puisque le truc crucial, c'est que la ligne de trait doit faire une ligne continue.
D'accord.
Donc, entre le collier qui est ici et puis la fin des traits.
Oui, oui.
Je vais pas bouger. La fin des traits qui est là. Et ça doit former une ligne continue. S'il y a une cassure dans le trait, on est sur une difficulté supplémentaire pour le cheval, avec des charges qui se répartissent différemment, qui viennent appuyer sur une partie de l'appareil, et donc qui sont...
Pour donner une image, c'est un peu comme quand on a un sac à dos mal réglé, quoi. Ça va frotter.
Oui, clairement.
À part qu'ici, les charges sont
plus lourdes.
Mais en plus, ici,
il y a la charge, oui, et donc même des risques de blessures et des choses comme ça.
Est-ce que le cheval l'exprime s'il y a un inconfort, par exemple? Mettons que si le collier est nouveau, qu'il est désagréable ou je ne sais pas.
Oui, alors c'est pas facile à déceler. Parfois, on dit, il y a un cheval, il va pas bien, etc. Mais les causes peuvent être multiples. Mais en tout cas, cette cause-là, on doit vraiment l'explorer.
D'accord.
Et donc, faire des réglages de type de mort, de serrage de différentes parties de l'appareil, quoi. Donc, ouais. Et c'est vraiment une base parce que faire de la traction animale, la base, c'est de prendre soin de la bête. On parle parle beaucoup de bien-être animal, mais chez nous, à Meneur, on est très très attentif parce que ça fait partie d'une charte que tous les gens qui travaillent en collaboration avec les SBL signent vraiment sur ce bien-être animal. Et le réglage des choses fait partie intégrante de ça.
Oui, d'accord. Est-ce que ça se rôde, par exemple, un collier, quand il est nouveau, est-ce qu'il faut un temps d'adaptation?
Le collier doit,
comme les souliers,
doit se former, oui, tout à fait, c'est du cuir. Alors anciennement, c'était de la paille qu'on mettait là-dedans. Ce boudin de cuir doit prendre la forme de l'épaule du cheval, de la morphologie du cheval. Et donc ce collier-ci ne va pas aller sur le cheval d'à côté. Donc chaque cheval a son collier.
Alors il y a des cordes qui sont attachées à l'anneau. Ça c'est plutôt pour la direction.
Ouais, on appelle ça un cordeau.
Un cordeau, d'accord.
Donc si on va en France, ils n'utilisent pas le cordeau. Ils vont utiliser des guides, donc ce sont des rênes en fait, comme un cheval de selle qu'on guide avec des rênes. Et ici, c'est un peu une tradition, c'est la tradition en Ardennes, c'est de l'utilisation du cordeau.
D'accord.
Et donc ce cordeau est relié, passe par le collier et est relié au mort.
Okay.
Et donc effectivement, il va y avoir une nomenclature, un vocabulaire qui va venir s'associer aux injonctions qui sont données par ce cordeau. Donc entre la bouche du cheval et la main du meneur, il y a une chaîne. Est faite de sons et qui est faite de petites impulsions. Donc si je veux par exemple faire aller mon cheval à gauche, je vais lui dire ar, c'est une convention, c'est comme ça, ar veut dire gauche, et je vais tirer de manière continue, délicatement, sur le cordeau.
D'accord.
Donc lui, ces deux informations-là fait qu'il sait qu'il doit aller à gauche.
Et lui, il faut combien de temps pour apprendre ce langage-là?
C'est assez variable, mais assez peu de temps. Alors ça dépend, parfois il y a des poulains qui sont débourrés avec leur mère. Donc débourrés, c'est éduqués. En fait, ils ont déjà entendu tout ça et il suffit que on les mette en route pour que ça fonctionne.
Ah, ils ont observé.
Ils ont tous les sons, ils ont tout ça qui est déjà là.
Ah oui, ok, voilà. Un peu comme on dit.
Moi j'en ai jamais débourré. Mais...
Oui. Ouais. Ah oui, on dit débourré aussi.
Alors,
se débourrer, c'est souvent le cheval pour monter dessus, le monter, quoi, qu'on dit.
Oui, c'est pareil.
Mais ici, alors... c'est plutôt une question d'éducation, c'est un peu plus subtil quelque part, non? Enfin, je sais pas.
Non, disons qu'il y a il y a l'aspect des ordres vocaux qui s'ajoutent au débourrage plus à cheval, cheval de selle. Par contre, il y a des ânes juste à côté de nous, et eux, on dit souvent qu'un cheval, ça se dresse d'une certaine manière. Un cheval, on va quand même pouvoir avoir un pouvoir dessus quand on voit ce qu'on fait avec les chevaux.
On a un peu obligé
quand on voit des masses pareilles. L'âne est assez différent dans sa psychologie. On dit qu'un cheval, on va l'éduquer. Un âne, pardon, on va l'éduquer. Mais dans tous les cas, que ce soit âne ou cheval, en fait, on s'éduque ensemble. Moi, j'ai un nouveau cheval qui vient d'arriver. On s'apprivoise et il faut plusieurs heures de travail, il faut plusieurs jours, il faut plusieurs... Et je vais même presque aller sur des mois et des années pour qu'il y ait une chouette connexion qui se fasse et que du coup... Parce que la finalité de tout ça, c'est quand même de faire un travail efficace.
Oui, bien sûr. Oui.
Je veux dire, on n'est pas ici dans du folklore. Nous, notre volonté, c'est de pouvoir vraiment que le cheval ait une place dans l'économie et dans l'écologie des forêts. Le cheval est à plein d'égards, à plein d'atouts que ne possèdent pas les machines en forêt.
C'est
la compaction du sol. Une machine qui passe sur un sol forestier, une grosse machine, elle va compacter le sol à son premier passage à 70%.
Ouais.
Et ce sol...
On le voit bien d'ailleurs en forêt. Les traces des machines forestières se voient pendant des années.
Voilà. Alors après, se voit ou pas. En tout cas, le tracteur qui dit « je ne vais pas faire d'ornière et je vais passer à côté, passer un peu partout », c'est pire, puisque 70% de la compaction se fait au premier passage. Et donc, avant, on avait ce phénomène hivernal, de gel, avec de l'humidité, etc., qui faisait que les sols s'ouvraient, s'éclataient, se reformaient finalement. Ça existe beaucoup moins maintenant, avec les conditions qu'on connaît. Et donc, ces compactions de sol, elles sont presque irrémédiables, en fait. Et elles se camouflent par la végétation. Une ornière, ça disparaît petit à petit en surface, mais en profondeur. Aujourd'hui, on est quand même sur des logiques où on va plus à faire de plantations de résineux en monoculture, très très peu. Le réchauffement, climatique ne le permet plus. L'investissement dans ce genre de culture ne fonctionnera plus.
Bon, la monoculture, c'est jamais une bonne chose, je pense.
Ah ben, pour la nature, certainement pas. Voilà, c'est une logique économique.
Oui, voilà.
Ouais. Mais en tout cas, comme on ne va plus pouvoir faire ce genre de choses, le cheval et le débardage va trouver des lettres de noblesse et retrouver des lettres de noblesse dans d'autres domaines. On va travailler plus dans des forêts feuillues, peut-être avec des plus gros bois. En termes de régénération naturelle, ben, comme on privilégie les sols et la pousse naturelle des plants, ben, le cheval préserve tout ça qui est en train de venir, alors que on peut pas imaginer ou devoir être obligé d'eux, puisqu'en fait c'est un peu le cas, imaginer des régénérations naturelles en forêt, hein, public particulièrement, et en même temps continuer avec les machines. Ça coince, quoi.
Ouais, tout
donc,
à
voilà,
fait.
C'est un peu l'avenir de cet animal. Et puis bon, voilà, tous les coûts, on sait jamais, on le voit bien, mais les coûts de carburant, etc.
Et puis l'acquisition des machines, hein, ou la location, quoi.
Et puis la rentabilisation de ces machines font que le cheval, c'est quand même une manière de retrouver un rythme plus logique pour tout le monde, qui est effectivement plus proche en tout cas de la réalité de la nature.
Et donc c'est aussi pour le maraîchage, mais pas un cheval de trait comme celui-là, pour le maraîchage, j'imagine.
Alors si, en fait, oui, tout à fait. Donc ici c'est un trait du Nord, donc c'est un cheval qui est plutôt, c'est un peu le Brabançon de Belgique, mais pour le nord de la France.
Okay,
donc
d'accord.
Ces deux races-là sont vraiment pour le travail de culture, le travail de sol et de culture dans les fermes, quoi. Donc c'est des chevaux très massifs, qui sont très hauts, très très costauds. L'Ardennais, notre race un peu plus locale, est plus court, plus boule,
oui,
plus ramassé,
oui,
sur lui-même, et donc va avoir plus de facultés pour
circuler. Ils ont un peu diminué sa taille aussi, hein, je pense.
Oui, et puis il grossit d'autres choses.
Oui, il est impressionnant aussi. Hein. Ça peut...
oui.
J'habite en Thaïlande, là, ils utilisent des éléphants, hein, pour le débardage.
Ah oui.
Ben, c'est nos éléphants à nous, hein.
C'est ça. Quelque part. Oui, c'est ça. On dit le géant doux, hein, le géant de...
Ouais.
Oui, en tout cas, au niveau du maraîchage, donc un travail de charruage de sol. Donc si vous prenez la prairie qui est ici, mm-hmm, et vous voulez la transformer en champ, il faut un cheval comme ça. Un âne ne va pas savoir faire le travail.
Ah, bien sûr.
Oui, par contre, un sol travaillé, etc., là, l'âne va prendre toute sa valeur, puisqu'il a des tout petits pieds, il va être très précis,
ouais, okay,
il va mettre son
d'accord
pied un petit peu devant, etc., ce que c'est moins faire un cheval comme celui-ci.
Uh-huh.
Mais voilà, quand on compose sa culture et ses interlignes en fonction du cheval, ben, on n'a pas de souci. Lui, il passe dans cette interligne de 70 cm et ça permet de pouvoir faire le travail sur les buttes de part et d'autre de son passage, quoi.
Et puis bon, il y a le charme aussi, hein, faut bien ce qui est.
Alors moi j'étais sur un chantier dans le bois de Lozelle à Louvain-la-Neuve et puis on travaillait. Alors c'est intéressant aujourd'hui dans une logique économique qui est quand même très prégnante et qui a une certaine logique aussi, hein, le cheval va être son rôle là où il va être le plus intéressant, le plus performant, le plus rentable. Eh bien ça va être dans le débuscage. Donc ça va être chercher les troncs en forêt qui ont été et puis les amener sur un lion. Où là, une machine prend le relais. Là, on est au top de la collaboration, ou de la synergie, en tout cas, entre le cheval et...
D'accord, le débuscage.
Oui, c'est ça, et
d'accord
la machine. Alors, après, on peut tout faire au cheval, mais on perd en rentabilité. Le cheval, à partir de 50, 60, 70 mètres de distance à faire pour tirer chaque tronc, eh ben voilà, lui, il se fatigue, etc.
Ouais, ouais.
C'est... et alors dans ce bois de Lozelle, hein, on avait les gens, on entendait les gens qui voyaient les machines prendre les bois et qui disaient oh, c'est honteux, qu'est-ce que c'est que ça, on peut plus. Et puis quelques mètres après, on était avec les chevaux, ils disaient oh, c'est magique. Voilà, on fait le même boulot.
C'est la même chose en fait. Mais bon.
Mais c'est sûr que ça nous rapproche de. Ça nous rapproche fort de la nature. Il y a quelque chose de très... Je pense que l'imaginaire des gens, par rapport au cheval, par rapport à la force, par rapport à tout ça, est encore très développé. Et puis bon, voilà, ça fait partie de notre culture histoire. Hein. Notre cheval ardennais, il a été exporté dans le monde entier pour le travail un peu partout.
Oui, ouais, il était connu dans le monde entier.
Ouais,
ouais.
Et donc c'est par bateau.
Aux États-Unis, notamment.
Hein. Ouais. Bah, les Mormons qui aujourd'hui utilisent encore le cheval de manière permanente, c'est des souches de cheval ardennais.
Et puis même dans la conscience collective, enfin, c'était le moyen de transport depuis des milliers d'années.
Oui, voilà.
Quoi,
hein.
Okay.
Ça reste encore, quoi. C'est marrant.
Ouais,
hein.
Ouais.
On est loin de
ça. On y revient quelque part.
Mais c'est en nous, dans l'imaginaire, quand je dis imaginaire ou inconscient collectif, c'est ça.
Et ça avant que j'oublie, donc c'est les meneurs, et c'est situé où?
C'est l'ASBL Meneur.
Meneur.
Alors on est, en fait, c'est un groupement de plusieurs meneurs répartis sur l'ensemble de la Wallonie.
Okay.
Le siège social est à près de Neuchâteau, ici.
D'accord.
Mais voilà, on est de Chimay à Eupen, à Arlon.
Et si quelqu'un veut faire un stage ou apprendre?
Alors l'ASBL, justement, c'est un peu sa force, entre guillemets, mais c'est qu'elle organise des formations de différentes formules. Donc voilà, c'est une formation qui est, je trouve, qui est super intéressante pour avoir des bases qui sont indispensables.
J'ai rencontré une jeune dame qui a fait la formation, qui en était en effet tout à fait ravie.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et j'ai déjà rencontré des gens qui sont avec un animal en disant oui mais ça va pas, etc. Et c'est un peu les bases dont je vous parlais par rapport au collier.
Ah.
C'est un peu pareil. En fait, le meneur, il doit avoir compris certaines choses. Il faut quand même arriver avec dans la tête, etc. Avec des concepts. Et,
ouais,
et,
ouais,
voilà.
Ouais.
Et cette formation, elle donne ça. Évidemment que ça ne remplacera jamais l'expérience des heures passées où s'accumule tout ce savoir.
Parfois, on reçoit une base pour s'y mettre, quoi, quelque part.
Mais voilà, c'est indispensable. Et, ouais. Et si on chante cette étape-là, on peut être mis en difficulté, en fait.
Puis j'imagine qu'il y a un réseau aussi derrière tout ça,
tout à fait.
D'entraide et de choses comme ça.
C'est la force de l'association, c'est vraiment de mettre en réseau et d'avoir une volonté vraiment de fonctionner en synergie.
Il y a un site internet à notre époque, ça va comme ça.
Je pense que c'est meneur.be.
Ok, ben voilà, c'est très facile. Un numéro de téléphone, peut-être?
Alors,
ah non, ça va. Ben, c'est pas grave, meneur.be, c'est très bien.
Je vais quand même demander confirmation. Signe.
Voilà, on se renseigne. Non, voilà, ce sera pour plus tard, de toute façon. C'est assez facile à trouver. Ben, un tout grand merci, hein, c'est super.
Ben, merci, c'était chouette aussi.
Et, en tout cas, une chose est claire et nette, ça attire beaucoup de monde. Tout à l'heure, j'étais avec le monsieur avec les céréales, là.
Hein. Ouais.
Et donc, dès qu'un cheval qui passe, il dit non, je m'arrête parce que moi, face aux chevaux, je ne ferai jamais la compétition.
Ouais.
Et, c'est très, très chouette. Un grand merci. Hein.
Oui, tout à fait.
Tout se passe bien. Au revoir.
Merci, bon après-midi.
Eh bien, voilà, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Sud, nous voilà donc à la petite foire. Alors, sur Radio Sud, on a passé plusieurs fois un disque qui s'appelle « Musique d'action paysanne » avec Alès qui avait composé ça avec un accordéon, ukulélé et tout. Et alors, et ben ici, j'ai des gens du MAP hein, aussi, mais là, le mouvement d'action paysanne. Hein. Alors, bienvenue d'abord dans le studio de Radio Sud, ici à la petite foire. Vous pourriez vous présenter dans un premier temps?
Moi, je m'appelle Chris, je suis vice-président du mouvement d'action paysanne et paysan formateur, et comme mon collègue, résistant de la terre.
D'accord. Alors, le collègue?
Alors, moi, je m'appelle Serge, je suis paysan maraîcher à la ferme arc-en-ciel à Ouélin. Et je suis investi au MAP aussi, donc notamment pour le système participatif de garantie.
D'accord.
Et ferme école aussi, donc comme Chris, on accueille des apprenants chaque année pour les former à la paysannerie.
D'accord. Et alors, pour nos auditeurs, hein, parce que tout le monde n'est pas au courant exactement de ce qui se passe dans le monde de l'agriculture, on a été ici en Europe vraiment avec une agriculture productiviste. Industriel, pour le dire ainsi, et donc ici à la petite foire, c'est juste l'inverse d'une certaine manière. Hein. Donc la paysannerie, ça, pour vous, qu'est-ce que ce serait, hein, puisque vous êtes dans le mouvement d'action paysanne, qu'est-ce que la paysannerie d'abord?
Pour moi, la paysannerie, c'est un respect de la terre et de la nature et de l'environnement, en premier. C'est un travail à plus petite échelle et avec des manières beaucoup plus douces de travailler son sol et de produire du légume, style traction animale ou carrément en full manuel. Et je dirais que grâce à notre technique et à l'agroécologie, eh ben, l'environnement s'en portera beaucoup mieux qu'avec de l'agro-industrie et de l'agro-business.
Oui, oui. Ben, il faut dire les choses comme elles sont, ils sont en train de tuer la terre, hein, tout simplement. Avec leurs engrais, leurs pesticides qui tuent les abeilles et patati.
La terre et tous les êtres vivants. Hein.
Oui, oui.
Et humains y compris.
Oui, bon, on est les derniers arrivés, on sera les premiers partis. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose. Vous avez parlé d'un concept là de...
Le système participatif de garantie.
Oui, voilà. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Alors en fait, il s'agit d'un... C'est plus qu'un label. Je veux dire qu'un label, voilà, il va certifier qu'on est en bio, par exemple. Ici, le SPG, c'est un label citoyen et paysan. Et donc ici, sur la petite foire, les producteurs et les artisans ont une marguerite, que voici. Et donc avec des pétales qui se colorent en fonction de ce que le producteur ou la productrice ou l'artisan ou l'artisane va développer. Donc chaque pétale représente un critère. Il y a le pétale local, ça c'est la distance qui va montrer en fait là où le producteur ou la productrice se trouve par rapport au lieu de la petite foire.
D'accord.
Donc, ici par exemple on est sur la marguerite d'Olivier donc, qui nous accueille sur son site, donc forcément son pétale est coloré jusqu'au bout puisqu'il est sur place. Quelqu'un qui sera juste en région wallonne, il aura... Voilà.
D'accord.
C'est pas grave, c'est juste pour... Ça donne une indication, c'est pas quelque chose qui est sanctionnant. On ne veut pas montrer qu'il y a une fleur qui est plus belle qu'une autre. Chaque producteur a sa légitimité. On a un pétale sain, donc sans OGM, sans pesticides, sans produits chimiques, sans semences hybrides, voilà. Donc chaque, bon, sans OGM et sans pesticides chimiques, sans produits chimiques, ça c'est la règle ici pour être à la petite foire, c'est le minimum.
Oui.
Celui qui utilise des produits chimiques, il ne pourra pas venir.
D'accord.
Alors de nouveau, pas que on jette pas la pierre aux agriculteurs qui utilisent des pesticides chimiques, parce qu'on dit souvent c'est eux-mêmes qui sont les premières victimes. Ils sont dans un système où on les a mis là-dedans, ils s'empoisonnent eux-mêmes. D'ailleurs, les problèmes de cancer, de stérilité naissent beaucoup chez les agriculteurs aussi, d'abord, et puis chez les citoyens à cause d'eux. Mmh. Et donc, c'est un système qu'on dénonce.
D'accord. Ben, par exemple, pour nos auditeurs, les semences hybrides, disons que normalement, dans une agriculture bien conçue, ben, on récupère des graines pour la saison d'après.
Voilà.
Et tandis que les semences hybrides, un hybride, on prend deux espèces différentes qui ont des caractéristiques de production, des fragilités aussi, ouais, mais qui surtout ne peuvent pas être produites.
Voilà.
Et donc en fait, ce sont les agriculteurs qui sont dans ces filières de semences hybrides sont prisonniers de grandes industries en fait, qui vendent leurs, ouais, produits.
Exactement.
Alors qu'un paysan est libre et indépendant, et en plus il peut aussi, pour ceux que ça intéresse, de faire de la sélection sur certaines variétés, etc.
Ouais.
Hein.
Ouais, ouais.
Donc voilà, alors il y a aussi l'idée de justice. Hein.
Oui, de justice. Donc, alors soit ils sont en activité secondaire ou principale, ça donne une indication. Parfois, les gens ont un métier à côté, un job à côté, parce que justement, la rémunération juste, elle, en général, sur la petite foire, les producteurs n'ont pas le pétale coloré, parce que quand on gagne 4 euros de l'heure, ou moins, ou même un peu plus, on ne peut pas dire que c'est une rémunération juste, évidemment. Mmh. Parce qu'on sait que l'agriculture, elle. En fait, on travaille beaucoup et on gagne très peu. Mais on le fait quand même. Et la plupart des gens sont heureux dans leur travail. Ça, c'est une des parties où on colore. Et tous disent, malgré la difficulté du métier, le manque de reconnaissance et de salaire juste, on aime ce qu'on fait. Et heureusement, sinon, ben, il n'y en aurait plus du tout. Quoi.
Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que mon collègue vient de dire. En fait, on le fait aussi par conviction. Parce qu'on sait qu'on est, nous, dans le droit chemin. Enfin, dans le bon chemin, on va dire. Il n'y a pas de droit chemin, pas de droit chemin. Mais ce qu'il y a avec l'agriculture en conventionnel, c'est que même dans les écoles, les profs, ils ont ça dans leur tête, ils n'arrivent pas à ouvrir les œillères, à aller sur du plus naturel, du plus respectueux du vivant et tout ça. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des histoires de gros sous, de subsides. Et voilà, c'est dommage, mais ils finiront un jour par ouvrir les yeux, ce sera peut-être un peu trop tard.
Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de faire goûter les produits, hein. C'est quand on va faire dans mon village, il y a un petit marché de maraîchers. Alors que ce soit les fruits et les légumes, c'est incomparable en qualité. Au niveau du goût, au niveau de la conservation. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Allez, l'agriculture industrielle produit des fraises toute l'année. Mais ça n'a pas de goût, quoi. Enfin, c'est rouge, mais ça s'arrête un peu là.
Pas de vitamines, pas de nutriments. Que chez les petits producteurs, remplis de vitamines, remplis de nutriments. Mmh. On le voit avec un pain. Vous prenez un pain industriel, vous allez manger 6 tranches de pain, vous avez toujours faim. Prenez un pain d'un petit producteur avec 2 tranches, vous avez... c'est fait, quoi. On est rassasié, on a mangé, on n'a plus faim.
Et on en revient aux semences hybrides, en fait. C'est pour ça que... Alors, ce n'est pas interdit, même en agriculture bio, on peut utiliser des semences hybrides parce qu'ils ont des caractéristiques soi-disant avantageuses au niveau calibrage, au niveau productivité, etc. C'est relatif, mais bon, ok, voilà. Mais par contre, au niveau des nutriments, on perd aussi énormément. Parce que les plants ont été tellement sélectionnés pour un caractère de rendement ou de calibrage ou de couleur, etc. Voilà. On a perdu des nutriments. Et donc, dans les variétés paysannes anciennes, Il y a plus de nutriments, ça c'est prouvé sur les tomates, sur les poivrons, que dans les semences hybrides qui finalement sont beaucoup plus pauvres. Et donc on mange, ben, c'est pour se nourrir, pour le plaisir de manger des bonnes choses, mais aussi pour être en bonne santé. Et donc en fait, le monde actuellement, il est nourri par l'agro-industrie en faible partie. Et on croit toujours que c'est l'agro-industrie qui nourrit. C'est 70% des paysans et des paysannes dans le monde qui nourrissent la planète. Hein. Donc, mais les 30% environ restants, c'est l'agro-industrie. Et on croit, parce que dans nos pays riches par rapport aux pays pauvres, l'agro-industrie est fort présente, même si elle est de plus en plus présente dans les pays pauvres aussi, justement pour exploiter les paysans au Brésil, en Afrique, ailleurs, pour remplir nos supermarchés. Hein. On connaît les célèbres serres de Almeria en Espagne, en Italie, avec des esclaves, hein, n'ayons pas peur des mots. Ils utilisent de la main-d'œuvre africaine ou autre à des conditions tellement horribles. Mais pour remplir nos supermarchés ici avec des tomates et des courgettes toute l'année à des prix très bas finalement.
Et ici en Belgique, la proportion d'agriculture paysanne, vous la situeriez à peu près à combien ? À la grosse louche, quoi. Hein.
Difficilement quantifiable parce que y en a qui s'installent, on va dire, toutes les semaines, mais il y en a qui arrêtent toutes les semaines. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a pour le moment une petite vague qui est plus vers des producteurs qui arrêtent que des producteurs qui s'installent.
D'accord.
Donc, bah, moi, je vois sur les réseaux sociaux, parce que je vais beaucoup sur les réseaux sociaux pour plusieurs travaux que je fais, et toutes les semaines, je vois du matériel à vendre, des gens qui disent on n'en peut plus, on arrête, parce que, en fait, derrière, ils ne sont pas suivis, en fait.
Mm-hmm. Et puis, bon, le climat n'aide pas non plus.
Le climat, cette année, c'est la catastrophe.
Ben oui.
Et puis les normes administratives, les normes financières, va tout être de plus en plus compliqué. Hein. Je pense à la facturation électronique depuis le début de l'année. Enfin, c'est toutes des petites choses. Et pour tous les petits, hein, pour les petits indépendants, c'est la même chose en fait. Et on dirait, on a vraiment l'impression que tout est fait pour éliminer les petits indépendants, les petits producteurs et autres, parce qu'on n'a pas, les reins assez solides pour répondre à toute cette ces conditions administratives et financières, qu'une grosse boîte, eux, ben, ils ont les juristes, ils ont les spécialistes, les informaticiens, ils ont tout. Mais quand on est petit, on doit tout faire, on produit de la nourriture et en plus, on doit faire tout de manière électronique et remplir de la paperasse et payer, hein, la cotisation de la PACW, hein, pour la promotion des produits wallons. Il faut payer, c'est une obligation. Alors c'est 100 euros par-ci, c'est 100 euros ou 200 euros pour l'ASCA. Enfin, c'est chaque fois des petites sommes, soi-disant, entre guillemets, mais 100 plus 200 plus 1, finalement, on ne s'en sort plus. Et donc c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui prennent le maquis, comme on dit, donc des producteurs qui vont rester paysans, parce que c'est dans leur âme, c'est dans leur trip, et donc continuer à produire de la nourriture pour eux, pour leur famille, en échange avec des amis, avec des voisins, mais ils sortent de la condition des producteurs officiels. Ils sont plus, ils sont plus professionnels officiellement. Ce qui est dommage, mais en même temps, ben voilà, il faut pouvoir survivre aussi. Et donc là où moi j'ai peur, c'est que notre souveraineté alimentaire pour le pays et pour le monde, elle est bafouée, parce qu'on ne va plus pouvoir continuer à tricher. Ben, hein, on a signé, ça n'a pas été signé l'accord du Mercosur, mais il est mis en place quand même. Donc en fait, aux directions de l'Europe, ils s'en foutent complètement. Ils ont des perspectives, c'est écraser les paysans ici et partout dans le monde, et ils sont en train de le faire. Et donc ben, on prend le maquis parce qu'on ne sait plus faire autrement. Mais en attendant, ceux qui vont se retrouver entre le marteau et l'enclume, c'est les citoyens. Parce que les magasins, un jour, ils peuvent se vider très vite. Hein. Une ville comme Bruxelles, c'est 3 jours, je crois.
Si légumes, les camions, légumes plus, tous les 24 heures, ouais. Tous les jours les légumes. Mais sinon pour tout ce qui est denrées basiques, c'est 3 jours.
On ne se rend pas bien compte à quel point c'est fragile, hein, en fait. Ce système qui a l'air de bien tourner, d'être efficace et tout, ben, déjà il y a 2 milliards de personnes qui ont faim sur Terre, donc c'est déjà la preuve que globalement il y a quelque chose qui ne va pas. Hein,
alors soi. Qu'on est capable de nourrir toutes les personnes, même plus que ce qu'on est, mais il y a une manque de volonté. C'est Jean Ziegler, hein, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était ancien rapporteur spécial aux Nations Unies pour le droit à l'alimentation, et il disait « chaque enfant qui meurt de faim, c'est un crime ». Et il avait raison, parce qu'on est capable de nourrir cet enfant, mais on ne veut pas, parce qu'il y a des stratégies politiques, économiques derrière, et c'est ça qui est criminel en fait. Si on ne savait pas, ben oui, ça serait la faute, t'as pas de chance, mais là, on est capable de le faire, et on ne veut pas, pour des raisons, comme je dis, politiques, économiques, etc. Et ça, c'est vraiment criminel.
Oui. La région wallonne avait fait faire une étude, il doit y avoir 4-5 ans, pour voir si la Wallonie serait capable d'être autonome en nourriture. Et en fait, ben oui, c'est tout à fait positif, ce qui ressort de l'étude qu'ils ont fait faire. C'est-à-dire que si on voulait, On n'est pas obligé d'acheter des pommes de terre en Israël. Hein. On produit de la pomme de terre ici, on ne mange pas nos pommes de terre. Mmh. 2025, le gouvernement fédéral se demandait comment ils allaient faire pour les détruire, les pommes de terre, tellement il y avait des surplus dans les stocks. Les carottes sont parties à 30 euros la tonne en fin de saison. 30 euros la tonne et les pommes de terre sont parties à 0 euros.
Ah oui.
À 0 euros. C'est-à-dire qu'on reprenait les patates chez le producteur. Ah, c'est gratuit. On vient chercher 3 tonnes de patates. Et distribuez-les. Il y a des gens qui meurent de faim en Belgique. Il n'y a pas besoin d'aller dans d'autres pays. Même chez nous, il y a des gens qui meurent de faim.
Il y avait le système des invendus là, dans les GB qui était récupéré par les Restos du Cœur ou d'autres associations. Et puis il y a une plateforme qui s'est installée, je ne sais plus comment ça s'appelle, et donc les gens peuvent acheter à moitié prix. Alors du coup, tout ça n'est plus donné. Enfin, là, il y a au moins de la récupération, mais d'un autre côté, on fait de l'argent avec, alors que dans l'autre côté, ça permet...
Il y a des assos qui le font. À Bruxelles, par exemple, il y a une asso, moi, j'ai une de mes apprenantes de cette année, elle a travaillé chez eux, ça s'appelle No Javel.
Ouais, je vois bien.
Et en fait, ils vont récupérer les invendus et ils revendent à prix, mais vraiment très très bas, pour que tout le monde puisse avoir à manger, quoi.
Alors pour information, ça s'appelle No Javel parce que la loi interdit d'aller dans les poubelles, enfin ou dans les surplus alimentaires, et donc pour être certain que les gens ne vont pas le chercher, on jette de la Javel dessus. C'est pour ça que cette association s'appelle No Javel.
Mais l'AFSCA le fait en premier. Quand l'AFSCA débarque dans un magasin et qu'il trouve qu'il y a des choses qui sont, on va dire que la DLC est trop limite, ils mettent dans des sacs poubelles et ils mettent du produit dessus pour être sûr et certain. C'est l'AFSCA qui l'offre.
C'est honteux.
Oui. Et puis tout, bon, ça c'est un peu de la responsabilité individuelle, mais tout ce qui est jeté aussi, hein. Il y a 25% à peu près qui est jeté, ce qui est quand même hallucinant.
Et ce qui est honteux, c'est que parfois on détruit la nourriture qui est encore bonne. Alors oui, il y a une date limite qui est... Alors avec certains produits c'est dangereux, ok, mais avec d'autres c'est vraiment pas nécessaire. Par contre, l'AFSCA, ce qu'elle contrôle pas assez, alors elle le fait, mais pas assez, justement, c'est de l'industrie. Et d'ailleurs, tous les empoisonnements qui ont eu lieu, toutes les crises sanitaires, c'est dans l'industrie. Hein, la peste aviaire, la peste porcine, toutes les grandes crises alimentaires, c'est dans l'industrie que ça a commencé. Et c'est les petits qu'on écrase à chaque fois. Quoi.
C'est ça, dit les petits qu'on se proche, hein, comme on dit à l'hier.
Le problème, c'est que les normes, elles ont été faites par les gros, mais on les impose aux petits. Ce qui veut dire qu'un gros lui dit, voilà, vous avez 1 million d'euros de frais de transformation à faire pour que votre laboratoire soit aux normes. On arrive chez le petit, vous devez faire 10 000 d'investissement pour être aux normes. Mais le petit, il n'a pas 10 000 à mettre.
Ben oui,
il faudrait qu'il y ait une norme pour les paysans et une norme pour l'agro.
Oui.
Et moi, j'en déborderai pas. Et je crois que Serge est tout à fait d'accord avec moi aussi. En fait, les mesures qu'on impose aux petits sont disproportionnées comparées à ce qui est imposé aux gros.
Il faut bien dire ce qui est. Ça ressemble quand même vraiment à une volonté de les faire disparaître, quoi. Enfin, tout se passe comme si.
Ouais. Non, mais ils ne s'en cachent pas.
En plus.
C'est visible.
Oui, oui.
C'est... Si à la limite, on ne le verrait pas, on n'entendrait pas, on se dirait qu'il y a un problème dans le monde paysan, dans le monde du petit producteur. Mais en fait, non, ils ne s'en cachent pas. Ils font ça tout à fait ouvertement.
Ah, ça là. OK.
Mais je voudrais vous demander si vous n'avez pas l'impression que quand même les gens commencent à se rendre compte de tous ces problèmes. Parce que je constate qu'il y a une affluence quand même assez incroyable aujourd'hui ici à la petite foire. Et je me dis que peut-être ça commence à percoler et que le public, les gens se rendent compte.
Moi je vais parler en termes, je vais prendre des chiffres. Parce que moi je travaille dans un autre, j'ai encore un autre travail à côté. Où je suis formateur dans un centre de formation en permaculture et ma patronne dit toujours on est 2,5%. Et en fait, pour faire basculer le système, ce qui veut dire que pour vraiment que le système bascule, il faudrait qu'on soit 3%. Il nous manque ce 0,5%, on gratte pour essayer de l'avoir, mais si on pouvait encore avoir des gens qui seraient conscientisés, qui aillent chez le petit producteur du coin, on serait vite au 3% qui ferait le basculement de la chose. Et là, on aurait gagné.
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Hein. Parce que ça fait pas énorme, en fait, hein, pour faire... Oui, moi, j'y crois aussi beaucoup à cette idée de basculement d'un paradigme, comme on dit, à l'autre, quoi, d'une façon globale de procéder. Ouais. Parce que c'est... Il y a un mot qui revient souvent aussi, c'est l'aspect systémique des choses. On a eu tendance à l'analyse, à tout découper en petits problèmes, on résout le petit problème, et soi-disant, on a résolu la totalité, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein.
En permaculture, il y a des principes qui disent que le problème est la solution.
Oui.
C'est pour ça qu'on a mis le système participatif de garantie en place aussi. Parce qu'en fait, ce qui manque, c'est le lien. Et donc, il faut recréer le lien entre celles et ceux qui produisent la nourriture et celles et ceux qui mangent. Et là, Olivier vient de pousser un coup de gueule dans le journal, il y a quelques jours, peut-être une semaine maintenant. Il avait plein de légumes et il restait avec, parce que les gens ne viennent pas. Et c'est ça le problème, les gens continuent à aller dans les grandes surfaces, alors que maintenant, c'est prouvé, on n'est pas plus cher, même parfois moins cher. Mais les gens, par habitude, voilà, parce que tout est fait par facilité dans les grandes surfaces, alors qu'il y a des magasins de producteurs aussi, avec tout. Alors, pas autant de choix de marque et tout ça, mais il y a des bons produits. Des coopératives, etc., à Beaurain, à Marche, enfin, un peu partout, à Jean-Blou, évidemment, enfin, il y en a, et où on trouve tout. Et donc, les gens n'ont plus d'excuses, ils n'ont pas le prix comme excuse, ils n'ont pas la démarche pratique, mais les grandes surfaces à coût de publicité arrivent toujours à attirer les foules vers eux. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ils y arrivent, et donc, c'est ça qu'il faut. Il faut que les gens se réveillent, se disent, demain, les magasins vont peut-être se vider, très vite, hein, comme on a dit, il faut le moindre grain de sable dans la machine. Et ça va être la panique. On a vu le Covid, hein, les gens sont rués
la moutarde,
chez les petits producteurs.
L'huile.
Voilà.
Qui a manqué tout de suite.
Voilà. Et ils sont venus. Il y a beaucoup de maraîchers qui ont planté plein en se disant on va assurer. Et puis quand les choses sont rentrées dans plus ou moins dans l'ordre, les gens sont retournés en grande surface et les maraîchers sont retrouvés avec plein de légumes à jeter parce qu'ils en avaient mis trop. Donc il faut vraiment conscientiser à ce niveau-là. C'est que les gens doivent redevenir paysans. C'est ce qu'on dit au MAP. Hein. Je suis paysan, je suis paysanne. Pour dire, en fait, on l'est tous. Nos grands-parents, ils l'étaient. Et donc on l'a encore, même si on sait plus cultiver de la terre, en soutenant le monde paysan, on peut le redevenir également.
Ben ça fait 10 000 ans qu'on est paysan, hein, depuis que l'agriculture a été inventée. Et c'est quoi depuis... en Europe, c'est depuis le plan Marshall, grosso modo. En fait, c'est les États-Unis qui sont arrivés...
Il fallait produire pour nourrir l'Europe.
Alors admettons qu'il manquait, mais une fois qu'on a eu assez, on aurait dû dire stop, ça suffit. Et puis il y avait le beurre de Noël, là, hein. Et puis les excédents, et puis les quotas, et puis. Et ils ne se remettent pas en question sur le côté productiviste intensif, alors que maintenant, toutes les preuves sont là que c'est fragile, que c'est dangereux, et que ça peut nous mener vraiment à notre perte. Hein. Il y a les bourguignons, là, les agronomes français, qui parlent de l'état des sols un peu partout en France, et ils disent qu'ils sont sous perfusion. Quoi, hein.
Ah, mais chez nous aussi, hein. Faut aller voir OSB.
Ah oui, OSB,
oui, ça, bien. Ils ont des cathéters. Mais il n'y a même pas que ça. Comment ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça va revenir. C'est parce que j'ai entendu il y a des mics et ça va.
Oui, on est en plein milieu de la foire, on a un chalet en plein milieu du marché. Et donc les gens passent et puis de temps en temps ils disent des choses qui distraient un peu. Mais bon, voilà.
Ce qui est terrible en fait, c'est que de nouveau tout est disproportionnel. À la grande foire de Libramont, ils reçoivent des centaines de milliers d'euros de la région wallonne. Nous, on reçoit un petit soutien qui est sympa, hein, mais qui est démesuré par rapport à ce que la grande foire demande et reçoit. Alors c'est pas de la jalousie, parce qu'en fait ils nous donneraient autant, on n'en aurait pas besoin. Justement, on a un modèle qui est beaucoup plus économique. La petite foire aussi, quelque part, on peut la réaliser avec des faibles moyens. Alors on travaille tous avec notre cœur, avec du bénévolat, parce qu'on sait que nourrir les gens, c'est un métier, et c'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est une nécessité. Mais le politique, moi, ce que j'accuse, en fait, c'est pas qu'il donne pas ou qu'il donne de l'argent, aussi parce qu'il le fait mal, mais parce qu'il prend pas ses responsabilités. Le politique, normalement, il est là pour défendre l'intérêt des citoyens, l'intérêt du peuple, comme on dit, et en fait, il ne le fait plus. On envoie les flics taper sur les jeunes en manif, alors qu'ils sont non-violents. Enfin, c'est honteux. On est de plus dans des politiques extrêmes, violentes. À l'Europe, c'est pareil. Comme je disais, les traités de Mercosur, il n'est pas voté. Et malgré ça, ils le font. Il y a même une plainte qui a été déposée à la Cour européenne de justice. Ils s'en balancent. Ils le font. Ils ont envie. Et donc, on a des dossiers, on a des preuves que des pesticides, que tout ce commerce mondial va droit dans le mur. Et on continue. Et nos politiques, ici en Belgique aussi, je les accuse parce qu'ils sont responsables de pas... En fait, un vrai politicien honnête, il devrait dire « Moi, je remets mon mandat ». Parce que tant qu'on reste malhonnête, on n'a pas le droit d'avoir un mandat. Parce qu'on est normalement élu par le peuple et on doit le respecter et tout. Et en fait, ils ne le font pas. Donc c'est vraiment criminel. J'en reviens à ce que Jean Ziegler il disait. Chaque enfant qui meurt de faim, c'est un crime. Et bien ici, c'est la même chose. Chaque personne qui a un cancer à cause de pesticides et autres produits chimiques, puisqu'il n'y a pas que les pesticides, évidemment, et bien c'est un crime et on est capable de l'éviter. Non, on va mettre de l'argent pour la recherche, pour guérir les cancers. Tant mieux, hein, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais prenons le problème à la source.
C'est Hippocrate, hein, qui disait que ça tombe avec ça.
Hypocrite.
Oui, le serment d'hypocrite.
Faut pas les chercher loin quand on voit tout ce qu'ils sont en train de, moi je vais le dire, racketter dans tous les domaines ici en Belgique, soi-disant il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais par contre, pour aller donner un coup de main à tonton Zelinski ou un truc ainsi, là on dépense, soi-disant, l'argent qu'il n'y a pas. Mais pour ça, il y a de l'argent, on va acheter
la
des
guerre,
satellites,
on va acheter la
des
guerre,
satellites en Belgique.
Toujours la guerre.
Vous voulez dire quelque
chose? En fait, mon grand-père, il disait un truc, il faut créer une guerre pour pouvoir redresser l'économie d'un pays ou d'un continent.
Ouais.
Parce qu'après la guerre, tout le monde a du taf.
C'est ce que les États-Unis font hein, quand ils sont en crise.
Ah, mais les États-Unis sont en guerre depuis qu'ils existent, sinon ils seront en faillite depuis qu'ils existent.
Ouais.
En fait, eux aussi, le dollar, il est sous cathéter, hein, parce que sans guerre, ils seront morts. Et puis, je ne vais pas accuser leur président, mais leur président a des conflits d'intérêts partout, il y a des guerres.
Hein. Oui, on va le laisser de côté.
On va le laisser de côté, celui-là.
Non,
okay. Moi, je le
pas,
vois, mais j'en parle.
Si
je
fais mieux, hein, mais bon, voilà, c'est une autre histoire.
Vous pouvez juste rappeler vos noms?
Moi, c'est Chris, je suis paysan formateur dans la commune de Durbuy, la plus petite ville du monde, et vice-président du MAP.
Ok, merci.
Et moi, c'est Serge, donc je suis paysan maraîcher, paysan résistant, et investi au MAP, au mouvement d'action paysanne également.
Du côté de Wellin, hein?
Oui, c'est ça.
Okay. Eh bien voilà, chers auditeurs de Radio Sud, nous voilà de nouveau, non pas en direct, mais en différé de la petite foire de Tournai, la petite foire paysanne. Et alors je suis là avec Jean et Jacinthe, hein, qui sont dans une tente juste à côté, derrière nous, la bibliodiversité. Hein.
Oui, c'est ça, en fait.
C'est bien ça. Et donc, on discute d'un projet sur Radio Sud qui serait du côté du slam et de la poésie, hein, si j'ai bien compris.
Oui, moi, c'est pour ma part. Voilà, en fait, j'ai un atelier. Donc, j'invite un artiste une fois par mois sur nos châteaux. Et cet artiste organise un atelier de 2 heures. Et après, on fait une scène slam. Si vous ne connaissez pas le slam, c'est tout simplement une scène qui est ouverte. Chacun a 3 minutes pour lire son texte, un texte propre à lui, et voilà, donc ça fait des petites soirées, chez nous on commence à 18h pour l'atelier, 20h on a un petit repas en commun, des sandwichs, la soupe qu'on a préparée, et après à 20h ben, on monte sur scène, mais l'artiste, ouais, je tiens à faire venir un artiste, parce que nous on est des amateurs ici sur nos châteaux, alors je fais venir un auteur, une autrice un peu plus expérimentée, et qui nous donne de... qui nous donne des leçons, en fait, sans en être, parce que dans le slam, c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'il y a des ateliers qui s'organisent avant ou après, et pour pouvoir préparer des gens à monter sur scène, ça se fait pas comme ça, sinon les gens, ils ont un peu peur. Et donc c'est ça, l'atelier, ça permet de les mettre en confiance, et voilà, et c'est très chouette, et ça fait 3 ans, et on est bon, entre 10, 15, les grandes fois 25, mais c'est plus rare.
D'accord, ok. Et ça se passe où, ça?
Ça, c'est au Moulin Clépère, une fois par mois. On est sur Facebook, avec ça s'appelle le Slam des Moulins.
Le Slam des Moulins, ok, ouais. Sur Facebook. Hein.
Sur Facebook, oui. Okay. On n'a pas de grande diffusion, c'est une toute petite ASBL, on est micro, quoi. Donc, on est 3 et on essaye de monter ça. Et on est quand même soutenu par la ville, puisqu'elle nous offre l'endroit, le moulin, nous est donné gratuitement, et voilà.
Parce qu'on pourrait très bien faire des captations
venir,
hein, de
juste,
ça.
Pardon.
On pourrait faire des captations, on arrive avec un studio mobile.
Mais tu pourrais une fois venir, oui, je te donnerai les dates si tu veux.
Ben oui, volontiers. Oui, ouais.
Sur la page Facebook, elles vont être annoncées. Donc la prochaine date, c'est le 26 août, avec Mauve McQuell, qui est une artiste fantastique de Bruxelles, qui a écrit des romans ou un roman, mais qui est aussi sur les scènes bruxelloises pour faire du slam. Et voilà, moi, comme j'ai été la voir 2-3 fois, on a fait connaissance et elle a accepté de venir. Et voilà.
D'accord. Et toi, Jacinthe, dans cette affaire-là?
Dans cette affaire-là, alors moi, je suis ici parce que justement, à 14h, je vais avoir la chance de faire une performance poétique et puis d'animer un atelier d'écriture.
D'accord.
Et donc, la performance, elle est inspirée d'un recueil qui s'appelle « Au-dessus des marécages, les oiseaux » que j'ai publié chez Courgette Édition. Et donc ici, on a à la fois Maelstrom qui est là, comme maison d'édition notamment, et Courgette, qui sont là avec les livres. Et donc il y avait cette possibilité eh bien, de proposer cette performance. Et puis, d'animer après, une petite demi-heure après, un atelier d'écriture famille. En fait, c'est ça aussi qui va être chouette. Donc parents-enfants.
Autour des questions, la performance parle principalement d'éco-anxiété et avec une manière d'aborder la question qui est proche du vécu, donc qui est pas, c'est pas de la théorie, au contraire, c'est les deux questions qui sont posées, c'est ça veut dire quoi grandir dans le monde d'aujourd'hui, comment on fait avec ça. Et ça veut dire quoi être parent dans le monde d'aujourd'hui ? Comment on fait avec ça ?
Ok, d'accord. Ah oui, oui. Ben c'est des thèmes intéressants à réfléchir, hein, si on ne va pas y échapper. Donc c'est bien de trouver les mots pour en parler.
Le monde change et je pense qu'il faut s'adapter. Effectivement, il y a des nouvelles maladies maladies, l'anxiété. Comment parler de notre angoisse ou de tout simplement notre questionnement sur l'avenir pour nos enfants et voir si nos enfants eux-mêmes sont inquiets ou pas. Et voilà, et c'est tout le j'ai pas lu son livre. Désolé, Jassane, je voulais l'acheter. Je vais l'acheter tantôt, mais je suis très très impatient d'écouter parce que Jassane écrit très bien, c'est pas elle a quand même quelques heures de vol, je veux dire en scène, et beaucoup de livres déjà édités, notamment chez Malmström, la maison que je défends aujourd'hui. Et moi, je croyais que c'était logique que la petite foire invite des éditeurs, parce que pour moi, on vit la même chose. On est des petits, hein, donc t'as les petits producteurs de beurre, de lait, de café, de tout. Et on est mangé par les gros. Il y a des problèmes avec, maintenant récemment, Bolloré qui rachète, Rossel qui rachète. Et nous, les petits, on fait comment, quoi ? Et il faut s'entraider. Donc on a le même souci en tant que petit producteur agricole que simplement de la culture. Nous, on fait des poèmes, on fait des spectacles. Et comment est-ce qu'on arrive à les vendre ou en tout cas à les partager ? C'est ça l'essentiel. C'est pas tellement de gagner des sous. Mais c'est d'avoir l'occasion de s'exprimer. Ce qui est bien chez vous avec Radio Sud, c'est qu'on a l'occasion aussi de s'exprimer.
Ah oui, oui.
Et ça permet aussi justement d'aborder des questions qui ne sont pas toujours abordées dans les médias qui sont les plus mis en avant, les plus valorisés, et de les aborder aussi autrement. Parce que par exemple, la question de l'éco-anxiété, ça devient un peu une question à la mode, mais genre, soignez-vous chacun dans votre coin, et ça, c'est très peu pris comme une question collective et politique, en fait.
Tout à fait,
Qu'est-ce que ça raconte par rapport à l'état du monde et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on s'en empare, non pas pour être complètement écrasé par le monde, mais pour se remettre en mouvement, en action, en fait, face à l'état du monde, qui est aussi ce qui se fait dans cette petite foire à nouveau. Oui.
Mais le terme mal choisi, éco-anxiété, c'est l'anxiété.
Malheureusement, Cindy, qui ne peut pas défendre sa maison d'édition, mais invitée-la juste après, elle a trouvé le mot, elle parlait, mais je l'ai oublié déjà.
Éco-lucidité.
Éco-lucidité,
tu l'as noté,
exactement.
Oui. En fait, anxiété, c'est qu'on est anxieux, c'est-à-dire qu'on a une peur sans raison. Mais en fait, si on regarde l'évolution de la biodiversité, de la perturbation du climat, on a plus que des raisons d'être inquiet.
Absolument.
Donc, le fait d'être anxieux, c'est parce que ça lui fait réfléchir quand tu dis il faut se soigner. Non, en fait,
c'est l'injonction sociétale, en fait, mais qui est complètement décalée de ce que ces symptômes racontent de notre monde.
Tout à fait, oui.
Aujourd'hui, ne pas être anxieux face à l'état du monde, c'est plutôt ça qui semble problématique.
Oui, tout
et donc,
à fait.
Être à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis qui sont justes, en fait, et puis se mettre en mouvement, ne pas rester dans quelque chose d'un écrasement ou d'une attention uniquement individuelle. C'est toi qui dois aller mieux, toi qui dois faire avec. Oui, collectivement, comment on transforme le monde pour retrouver du sens, pour retrouver de l'envie, pour retrouver même la possibilité de continuer à habiter ensemble sur cette planète à long terme.
Ben voilà, tout ça c'est très bien. Donc c'est à 14h.
14h,
hein,
oui.
Et jusqu'à 16h pour l'atelier, le partage, je pense.
Absolument.
Voilà. Oui. Ok.
Voilà.
Et
bien sûr, c'est... Mais je pense que les gens peuvent intervenir, on ne va pas s'enfermer, on n'aura pas l'occasion de le faire. Mais si, bon, évidemment, là, on n'est plus en direct.
Non, ce sera du différé.
Que ça soit diffusé dans les baffles et que inviter les gens à venir nous retrouver, que ce soit au Slam du Moulin ou regarder un peu tout, quand vous voyez que Jacinthe passe dans la région faire quelque chose. Et voilà.
Il faut prévenir Radio Sud et puis on fait des interviews et puis on peut organiser des choses. Et...
Ok.
Merci.
On ne demande que ça, en fait, ça fait partie de nos fonctions et de Orso à Subside, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et alors, c'était de radio communautaire, associative, de formation permanente.
Et il y a la notion de communauté, en tout cas, de participer. Et dans notre cas, nous, c'est de porter la parole, en fait, si on veut. Hein. Si on a une fréquence, ce qui est quand même assez difficile d'obtenir dans nos jours.
Il faut maintenir le feu, en fait. Moi, je suis venu ici avec cette idée, que pour le slam, par exemple. Moi, j'ai aucune compétence. En fait, il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas légitime. Donc moi, j'étais simplement spectateur. Et je voulais qu'on fasse ça, j'ai été ici à l'écho de mon centre culturel, de ma bibliothèque, et il n'y avait rien qui venait, puis un tiers-lieu a accepté, un tiers-lieu, donc quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les institutions, il a accepté, il m'a fait confiance, moi je me suis débrouillé pour avoir un sponsor, l'argent est rentré, puis malheureusement lui a dû fermer, donc il a négocié un slot avec les institutions, et maintenant je le garde aussi, bon, je pense que c'est garder le feu allumé, il faut pas laisser s'éteindre la flamme, ouais. quoi qu'il arrive, j'apporte un peu de carburant, j'ai des contacts parce que je voyage dans toute la francophonie. Je ne vais pas encore jusqu'au Canada, mais ça me plairait bien si j'avais les moyens. Mais c'est important, ou quand ils passent, essayer de les attraper quand ils passent.
Oui, oui.
On avait tenté de faire revenir des Africains il y a 2 ans, et puis il y a eu des problèmes de visa. Et je trouvais ça dommage que, bon, par exemple, en Belgique, on arrête les gens simplement parce qu'ils ont une nationalité, alors que c'est des artistes. Donc on avait fait venir, tout était prévu, on pouvait payer les billets, on pouvait réserver plusieurs spectacles dans la région pour les faire connaître, et tout ça a été bloqué pour des raisons politiques.
Et c'est vraiment dommage parce que c'est...
Mais oui, mais la culture c'est politique, et en même temps c'est une manière de se libérer de certaines angoisses, anxiétés ou... voilà.
On peut pas vraiment dire que le gouvernement actuel était
pour la
culture.
On n'a pas de chance, pas pour le moment.
Et ni pour favoriser la circulation des artistes, en particulier s'ils sont de couleur de peau noire,
oui,
ou bien
aussi,
de confession religieuse musulmane. Enfin, c'est un tout, en fait. Comment on soutient ou pas la culture, comment on soutient ou pas les échanges interculturels, ça va ensemble quelque part. Oui,
et puis sur le statut d'artiste, là, les dernières décisions qu'ils
absolument.
Ont prises, il y a des gens qui vont perdre entre 400 et 600 euros par mois.
Absolument.
On ne peut pas changer les règles en cours de jeu comme ça. Hein.
Oui, mais regarde, les anciens ministres eux-mêmes trouvent que c'est injuste qu'on va leur couper leur pension de 10 000 euros pour en faire une pension à 8 000 euros.
Les pauvres, quand même. On devrait avoir beaucoup de compassion pour eux.
Mais oui, c'est étonnant que Busquin et Louis Michel sortent dans la presse comme ça. Ils n'ont pas peur du ridicule. Quoi,
ils ne sont pas vite gênés, oui, ça c'est sûr.
Ouais, pour l'actualité récente. Ça sort quand, votre podcast
Oh ben, il va y avoir beaucoup de travail, ce qu'on a fait...
On va
couper tout ce qui est politique, d'abord.
Non, on ne coupe rien. Hein. Ça fait partie des principes de Radio Sud, on ne coupe
d'accord.
rien. On va avoir genre 7 ou 8 heures de conférences.
Oui, quand même.
Et donc, il faut couper ça.
Danser la ronde des massotelles, la maquerelle vous a-t-elle ensorcelé? Danser la ronde des massotelles, vous ne finirez pas sur le bûcher. Danser la ronde des massotelles, la maquerelle vous a-t-elle ensorcelé? Danser la ronde des massotelles, vous ne finirez pas sur le bûcher. Massotelles de la paix sont les gardiens. Ici on ne craint pas le loup, il est des nôtres et danse comme un fou. Entrez dans la ronde, prenez-vous la main. Les massotelles de la paix sont les gardiens.
<t'en>
Dansez la ronde des masses hôtels, la maquerelle vous a-t-elle ensorcelé? Dansez la ronde des masses hôtels, vous ne finirez pas sur le bûcher. Dansez la ronde des masses hôtels, la maquerelle vous a-t-elle ensorcelé? Dansez la ronde des masses hôtels, vous ne finirez pas sur le bûcher. Ici on ne craint pas le loup, il est des nôtres et danse comme un fou. Entrez dans la ronde, prenez-vous la main, les massotés de la paix sont les gardiens. Hey. Ici on ne craint pas le loup, il est des nôtres et danse comme un fou. Entrez dans la ronde, prenez-vous la main, les massotés de la paix sont les gardiens. Dansez la ronde des massotels, la maquerelle vous a-t-elle ensorcelé? Dansez la ronde des massotels, vous ne finirez pas sur le bûcher. Ici on ne craint pas le loup, il est des nôtres et danse comme un fou. Entrez dans la ronde, prenez-vous la main, les massotels, la paix sont les gardiens. Dansez la ronde des massotels, la maquerelle vous a-t-elle ensorcelé? Dansez la ronde des massotels, vous ne finirez pas sur le bûcher. Ici on ne craint pas le loup, il est des nôtres et danse comme un fou. Entrez dans la ronde, prenez-vous la main, les massotels de la paix sont les gardiens.